Bonsoir à tous, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette soirée du département de patristique, une soirée exceptionnelle consacrée au contre Faust, le manichéen de Saint-Augustin. Alors, qui d'entre nous a déjà lu le contre Faust? A priori, pas grand monde, car malheureusement, c'est une œuvre pourtant importante, et on va vous le montrer ce soir, une œuvre très importante d'Augustin, mais très peu disponible. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas d'édition complète de qualité de cette œuvre. Et c'est désormais chose faite avec l'édition dans la bibliothèque augustinienne de l'ensemble du contre Faust. Et c'est cet événement littéraire et augustinien qui a motivé cette soirée en présence d'éminents spécialistes, Isabelle Baucher, Jean-Daniel Dubois et Alban Massy qui rejoint sa place. Voilà. Et on sera également rejoint tout à l'heure par Michel-Yves Perrin et Martine Dulahaye qui est en ligne. Alors pour introduire leurs propos, je vous propose pour ma part, Hugues Vermès, une rapide présentation de cette édition.
The recording has stopped.
Avant de vous de donner quelques mots d'un
recording is being recorded.
Au contre Faust. Alors, tout nouveau tome de la bibliothèque augustinienne est un événement. Tous reconnaissent la qualité de cette édition, une édition qui est toujours en cours à l'Institut des études augustiniennes, une édition qui est sans équivalent par rapport aux éditions anglaises, allemandes ou italiennes. Vous connaissez en effet cette édition qui associe au texte latin, donc là qui reprend le texte du Xell 25, une traduction de grande qualité, qui pour ses volumes est l'œuvre de Martine Dulahaye et de Paul Mattei, avec, et c'est la spécificité de cette collection, une introduction très précise, des notes de bas de page et des notes complémentaires qui font le bonheur de tous les lecteurs, qu'ils soient spécialistes ou non. Donc ça, ce sont les qualités de tous les volumes de la bibliothèque augustinienne. Il y a certains volumes de la bibliothèque augustinienne qui ont une qualité supplémentaire, c'est d'être une œuvre collective. Et c'est le cas notamment des volumes des commentaires de psaumes ou des volumes des sermons d'Olbo récemment achevés et qui associent l'expertise de latinistes, d'historiens, de philosophes, de théologiens. Et c'est le cas pour ces trois volumes de la bibliothèque augustinienne consacrée au contre Faust qui associent le travail de latinistes avec Martine Dulahaye, Paul Mattei, de philosophes, avec Isabelle Baucher, d'historiens, avec Michel-Yves Perrin, qui rentre dans la salle, de théologiens, comme Alban Massy. Mais ces volumes ont un intérêt encore supplémentaire, c'est que, outre tous ces spécialistes d'Augustin, ces volumes, du contre-Faust le manichéen, associent des spécialistes du manichéisme, notamment Jean-Daniel Dubois, qui est présent parmi nous, et Grégoire Wurst. Alors ces auteurs, il faut en avoir conscience, se sont réunis pendant plusieurs années, depuis 2013, plusieurs fois par an, pour produire ces trois volumes. Donc il y a le volume 18A, publié en 2018, qui contient l'édition traduite et annotée des livres 1 à 12 du contre Faust, précédé d'une ample introduction sur le contre Faust, son contexte, sa rédaction, son interlocuteur Faust, puis sur le manichéisme par Jean-Daniel Dubois. Il y a le volume 18B qui a été publié en 2020 et qui contient l'édition traduite et annotée des livres 13 à 21 du contre Faust, précédé d'une longue introduction consacrée à l'herméneutique biblique en œuvre dans le contre Faust par Isabelle Baucher et à la christologie par Alban Massy. Et enfin, le volume 18C, que j'aurais aimé vous présenter comme ça, mais qui va sortir très bientôt, il est publié en 2024 et il sortira très bientôt, dans quelques semaines, qui contient l'édition traduite et annotée des livres 22 à 33, précédée d'une ample introduction sur l'éthique manichéenne, sur la conception augustinienne du péché, par Isabelle Baucher, sur les hérésiologies à l'œuvre dans le contre Faust, par Michel-Yves Perrin, et sur la postérité de cette œuvre, par Emanuela Colombi. Vous avez compris qu'avec cette édition enfin achevée, nous avons non seulement l'édition de référence de cette grande œuvre d'Augustin, le Contre-Faust, mais aussi une présentation d'aspects majeurs de son œuvre, une présentation qu'on ne trouve pas ailleurs, et enfin, une introduction, à notre avis inégalée, au manichéisme. Alors avant de laisser la parole à nos intervenants, quelques mots sur le Contre-Faust. Pour présenter le Contre-Faust, le manichéen, Contra Faustum Manicheum, quoi de mieux que de laisser la parole à saint Augustin, qui le présente ainsi à la fin de sa vie, dans ses révisions ou rétractationes. Contre Faust le manichéen, qui attaquait de façon blasphématoire la loi et les prophètes, ainsi que leur Dieu et l'incarnation du Christ, et qui prétendait falsifier les Écritures du Nouveau Testament par lesquelles on le réfute, j'ai écrit un ouvrage considérable où je donne mes réponses à ces paroles que je cite. Ce sont 33 controverses. Pourquoi même ne les appelle-t-on pas des livres? Bien que parmi eux, quelques-uns soient très courts, ce sont pourtant des livres. L'un d'eux toutefois, où je défends la vie des patriarches contre ces accusations, est aussi long que presque aucun de mes livres. Cette courte présentation par Augustin du Contre-Faust dans ses révisions à la fin de sa vie, ainsi que des parallèles avec d'autres œuvres, permet de situer la rédaction du Contre-Faust entre 398 et 403. Augustin, qui a alors la quarantaine, est un jeune évêque à Hippone. Il achève la rédaction de ses confessions. Il s'implique à fond contre les donatistes. Les pélagiens n'existent pas encore. Le contenu de cette notice des révisions éclaire en outre la démarche d'Augustin dans le Contre-Faust. Contre Faust le manichéen, je donne mes réponses à ces paroles que je cite. Alors, il ne s'agit pas de la transcription d'un vrai débat qui aurait eu lieu entre Faust et Augustin, contrairement à ce que peut laisser penser la belle illustration des tracts. Augustin a vraiment rencontré Faust de Milève, mais bien des années avant, en 382-383, et si vous avez lu les Confessions, vous vous souvenez que dans le livre 5 des Confessions, Augustin rapporte cette rencontre décevante. Depuis, Faust est mort, et c'est avec un écrit de Faust qu'Augustin débat. Les Capitula, ou chapitres, qui sont eux-mêmes 33 petites controverses, dans lesquelles Faust le manichéen réfute les propos d'un interlocuteur catholique fictif. Et les 33 livres du Contre-Faust d'Augustin commencent donc chacun par citer un des 33 chapitres de Faust. Il le cite, puis il va les réfuter. La notice des révisions que je vous ai lue évoque 4 sujets majeurs de polémique entre Augustin et les manichéens. L'acceptation de l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, la conception de Dieu, l'incarnation du Christ et les interpolations dans le Nouveau Testament. Il, Faust, prétendait falsifier les Écritures du Nouveau Testament par lesquelles les catholiques le réfutent. Ces 4 sujets ne constituent pas le plan logique du Contre-Faust, puisque Augustin s'astreint à suivre l'ordre des chapitres des Capitula de Faust et il n'a pas réorganisé, malheureusement, le propos quelque peu désordonné des Capitula. La notice des révisions sur le Contre-Faust mentionne enfin tout particulièrement un livre plus long que les autres, dans lequel saint Augustin défend la vie des patriarches contre les accusations des manichéens. Il s'agit du livre 22, dans lequel l'Hipponate défend les personnages de l'Ancien Testament que Faust accuse d'immoralité et de péché, Abraham, Isaac, David, prétexte pour le manichéen au rejet de tout l'Ancien Testament. Et c'est justement ce livre 22 qui constitue la plus grande partie du volume BA 18C qui est publié cette année, de la page 96 à la page 355. Donc c'est vraiment une grande partie du volume qui est constituée par ce livre 22 consacré à la défense de la vie des patriarches. Un livre majeur dont vont notamment nous entretenir nos intervenants. Alors nous écouterons successivement nos trois intervenants, puis nous poserons nos questions aux trois réunis. Alors Jean-Daniel Dubois, tout d'abord, que nous sommes très heureux, très honorés d'accueillir ce soir. Jean-Daniel Dubois, après deux thèses, l'une à Strasbourg sur la pneumatologie lucanienne, l'autre à Oxford sur l'apocryphe de Zacharie, a enseigné à l'Institut protestant de théologie de Paris, avant d'être élu directeur d'études à l'École pratique des hautes études et titulaire de la chaire Gnose et manichéisme de 1991 à 2014. Depuis, vous êtes directeur d'études émérite et vous faites profiter de votre connaissance du manichéisme un certain nombre de publications, notamment la bibliothèque augustinienne. Alors, je tiens à vous rassurer, bien que Jean-Daniel Dubois soit un éminent spécialiste du manichéisme, le plus grand français, il n'est pas lui-même manichéen. Nous vous remercions de nous entretenir justement sur l'apport du contre-Faust à la connaissance du manichéisme.
Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. De quoi parle-t-on quand on parle de manichéisme ? La langue française dispose d'un vieil usage qui remonte au Moyen-Âge, le qualificatif de manichéen renvoie en fait à tout système, pensée, idéologie, éventuellement scénario de théâtre, quand il présente une opposition simpliste entre deux positions irréductibles. En novembre 2022, j'ai été invité à Nantes dans un centre de recherche catholique et on me demandait de parler du manichéisme à des créateurs de bandes dessinées. Pourquoi ? Parce que ceux-ci se réjouissent en ce temps-là que Netflix avait inventé un nouveau scénario moins manichéen. Et donc, on m'a dit, mais enfin, dites-nous un peu ce que ça veut dire, ce terme manichéen. Alors, en quelques mots, le manichéisme renvoie à une très grande religion historique, universaliste, née en Iran, au IIIe siècle de notre ère, sous l'impulsion d'un prophète, Mani, que le XVIIe siècle français appelait encore maniché, sans très bien savoir que maniché, c'était en fait la transcription latine de manichaios en grec, et plus exactement de maniraya en syriaque, qui veut tout simplement dire mani le vivant. Alors le manichéisme sort d'un milieu judéo-chrétien en Babylonie, un milieu d'origine baptiste, qu'on nomme aujourd'hui les El-Kassaïtes, des gens qui suivent un prophète El-Hassaï. En tant que religion, le manichéisme intègre des grandes figures prophétiques de l'humanité, dont Zoroastre, Bouddha et le prophète Jésus. Le manichéisme est né vers l'an 240, en tant que religion, aux alentours de l'accession au pouvoir de l'empereur d'Iran sassanide, Shabour. Alors, comme on aperçoit des manichéens en Égypte, peu après la mort martyre de Mani, le prophète Mani, en 277, et plus tard un peu au début du IVe siècle, dans l'Empire romain, il ne faut pas s'étonner que Zeb de Césarée, historien ecclésiastique, rapporte dans son histoire ecclésiastique, au livre 7, cette histoire de cette horrible hérésie, je cite, en jouant sur le nom de Mani, et en jouant avec le grec, Mani, c'est quelqu'un qui est pris de mania, donc c'est un fou. Si je rappelle cette petite anecdote, c'est que le terme de manichéen a abondamment été utilisé depuis la fin de l'Antiquité et au Moyen-Âge pour désigner en fait n'importe quelle sorte d'hérésie sans lien direct avec le manichéisme. Et les controverses plus proches de nous, entre protestants et catholiques, il y a quelques siècles, ont même vulgarisé cet usage, les protestants étant perçus comme des néo-manichéens. Alors il faut attendre la publication à Amsterdam en 1734 et en 1739 d'une première histoire critique de manie, de maniché, comme on disait, deux volumes par Isaac de Beausobre, un pasteur qui avait immigré à Berlin et qui s'occupait de l'église française de Berlin. C'est en fait l'inauguration, 1734-1739, d'une approche véritablement historique et critique du manichéisme sans lien avec la perspective hérésiologique d'Augustin, qui a longtemps été diffusée au Moyen-Âge. Depuis lors, on assiste à nombreuses découvertes de manuscrits manichéens originaux dans l'oasis de Turfan, à la fin du XIXe siècle. On en parle beaucoup ces temps-ci parce que c'est dans cette oasis-là qu'il y a des Ouïghours. Et on a des textes manichéens en Ouïghour. Et puis, au XXe siècle, c'est dans les années 1929, on découvre en fait encore une série de papyri en Égypte. Ça a complètement modifié l'approche de la recherche historique sur le manichéisme, puisqu'on avait, comme avec les documents de Turfan, des documents coptes, qui étaient des documents originaux provenant des manichéens. Imaginez que ces collections qu'on a découvertes en 1929, qui se répartissent aujourd'hui entre deux musées, principalement à Berlin d'une part et à Dublin d'autre part, c'est près de 1600 pages de planches de papyrus de format d'une feuille A4. Sur les 1600 pages, à l'heure actuelle, il y a à peine quelques dizaines de pages qui sont en traduction française. Il y a donc encore beaucoup de travail à faire pour de futurs doctorants. De toute cette collection, on a des chapitres d'œuvres exégétiques, les fameux kephalaya. On a des psaumes d'abondance, plusieurs centaines de pages de psaumes manichéens, donc de l'hymnologie manichéenne. On a des sermons aussi. Et comme je le dis, il existe encore de trop rares pages de traduction française de ces textes. Alors par chance, la recherche avance, et même encore en 1970, on a découvert un petit codex grec miniature, c'est-à-dire un petit codex qui fait le tiers de ce volume, mais qu'on pouvait mettre dans la poche, un petit codex de 200 pages en grec, qui raconte la vie de Mani. C'est maintenant évidemment édité et accessible. Et puis, toujours dans la foulée des recherches manichéennes qui augmentent, que ce soit sur le domaine bassin méditerranéen ou à l'est du bassin méditerranéen, du côté des sources iraniennes, on a découvert à partir de 1989 un véritable site archéologique dans l'oasis égyptienne de Dakhla, où on a trouvé plusieurs maisons manichéennes complètement détruites depuis le IVe siècle. Il ne reste que quelques murs. Mais ceux qui ont abandonné les maisons manichéennes ont laissé plusieurs centaines de documents, de papyrus, de lettres, de documents juridiques, d'attestations, de copies de vente, d'achat et de choses comme ça. Et bref, au-delà des documents hymnologiques qu'on avait jusqu'à présent, au-delà des sermons, des psaumes, etc. Avec la découverte de Darla, qui est encore en cours et dont on a maintenant déjà plusieurs volumes à disposition, on pouvait évoquer la vie concrète, manichéenne, qui pouvait se passer au IVe siècle, au milieu du IVe siècle. Les manichéens ont été persécutés par l'Empire romain à partir des années 303 et suivantes, mais surtout à partir des années 320. Et du coup, les manichéens se sont retirés loin des grandes villes. Darla est à quelques 200 km du Nil, à quelques 600 km du Caire. Et donc, dans ces coins-là, on pouvait encore pratiquer le manichéisme au moins jusqu'à la fin du IVe siècle. Mais ce qui est tout à fait intéressant dans la recherche aujourd'hui, c'est que toute cette documentation directe, ce qu'on pourrait appeler de la, entre guillemets, petite documentation, ça nous permet de reconstruire quelque chose des pans de la vie quotidienne de manichéens qui vivaient là, en famille, qui achetaient des terrains, qui les exploitaient pour vendre les produits de la ferme, qui discutaient avec des gens de la vallée du Nil, qui allaient envoyer leurs enfants faire des études universitaires, entre guillemets, carrément dans la région d'Alexandrie. Bref, c'est quelque chose de tout à fait intéressant comme documentation récente quand on parle du manichéisme tel qu'il a été vécu en Égypte au IVe siècle. Et pour ne pas terminer ce petit rappel des sources en cours, imaginez qu'en 2012, donc c'est presque hier, on découvre à la Bibliothèque nationale de France le sceau que portait Mani sur son sein. C'est-à-dire le sceau qui authentifiait Mani comme apôtre de Jésus-Christ. C'est un sceau en cristal extraordinaire qui faisait partie d'une collection de sceaux iraniens que la Bibliothèque nationale avait acquise sans savoir qu'il y avait même, entre guillemets, une relique manichéenne dans cette collection d'une soixantaine de sceaux manichéens, de sceaux iraniens. Mais le sceau est tout à fait, depuis 2012, identifié comme un sceau, le sceau historique de Mani, principalement pour des raisons d'écriture. Le nom Mani, apôtre de Jésus-Christ, est écrit avec une écriture tout à fait datée du IIIe siècle, et ça authentifie, en fait, avec une sorte d'écriture syriaque, l'identification précise de ce sceau comme étant un sceau qui a pu appartenir à Mani à un certain moment de son histoire. Alors, je m'arrête là, il faudrait aussi développer les études et les sources du côté de l'Iran. On identifie encore, depuis ces découvertes de la fin du XIXe siècle, ces milliers de bouts de manuscrits, de petits fragments de textes souvent en moyen perse, et ça a donné du coup toute une série d'entreprises, principalement dirigées par nos collègues du côté de Berlin, à redécouvrir même des peintures manichéennes au Japon. Ces peintures étaient connues depuis le XIXe siècle, mais l'identification de ces peintures comme des peintures manichéennes, c'est quelque chose qui provient en fait des travaux qui ont été faits sur l'iconographie manichéenne, qui est par chance attestée pour certains de ces manuscrits du 7e, 8e, 9e siècle, y compris avec des enluminures qui permettaient du coup de définir ces manuscrits comme étant vraiment des manuscrits manichéens. Alors, pour dire en un mot mon rôle dans cette équipe sympathique qui a abouti à la publication de ce Contre-Faust en 3 volumes, ça a consisté principalement à tenir compte, quand on parlait du manichéisme, de la variété des recherches en cours, pour sortir un peu le manichéisme du portrait qu'on en avait gardé, principalement par le portrait que donnait Augustin dans le Contre-Faust. Michel Perrin, ici même, avait dressé un catalogue détaillé du vocabulaire hérésiologique d'Augustin dans le Contre-Faust. C'était dans le premier volume. Il a repéré aussi combien, au-delà du vocabulaire hérésiologique d'Augustin, Faust lui-même utilisait un vocabulaire hérésiologique. Et justement, dans le dernier tome, on a toute une série d'exemples de cette façon de présenter l'adversaire sous le joug d'un hérétique. Pour Faust, c'était les hérétiques, entre guillemets, catholiques. Et pour Augustin, c'était l'hérétique Faust. Faust était sans doute un évêque manichéen, un haut gradé dans la hiérarchie manichéenne, habitué aux controverses avec les chrétiens. Faust devait être responsable d'un large territoire, non seulement en Afrique du Nord, mais aussi en Italie, en Gaule, en Espagne, et il fut condamné à l'exil en 386. Et la controverse, en fait, de la réfutation du manichéisme avec le contre-Faust d'Augustin commence, en fait, comme ça a été dit, dans ces années-là, en tout cas à partir de 387, mais peut-être déjà avant. Et donc, que tirer de cette controverse d'Augustin avec Faust et de la controverse en regard que Faust avait avec ses adversaires catholiques? Donc on a un double regard à avoir sur ces textes. Je pense qu'un lecteur peu habitué au manichéisme sera sans doute frappé par la hargne avec laquelle Faust s'exprime quand il parle de l'Ancien Testament et de la loi de Moïse. Il me semble que cette position s'explique principalement par l'origine el-kassaïte, ce milieu baptiste en Babylonie, où est né Mani. Et il faut se souvenir que c'est dans ce milieu baptiste el-kassaïque que Mani a eu quelques difficultés avec sa communauté. Il fut exclu de cette communauté. On dirait aujourd'hui que des el-kassaïtes sont des sortes de judéo-chrétiens, c'est-à-dire des gens qui utilisent, qui pratiquent leur christianisme avec des rites du judaïsme, mais aussi avec certaines tendances de valoriser l'Ancien Testament particulièrement et en lisant le Nouveau Testament avec cette lecture qui tient compte de ce qu'est l'Ancien Testament pour interpréter le Nouveau. Alors, si on tient compte de cette origine historique de Mani, exclue de sa communauté sans doute vers les années 220, Mani a gardé un très mauvais souvenir et de cette exclusion de la communauté el-kassaïte. Et je pense que, sans faire de la psychologie de bas étage, Faust a effectivement reproduit ce que Mani a vécu dans cette exclusion pour justement redire en fait pourquoi Mani et à sa suite Faust sont des deux figures du manichéisme qui ont quelques difficultés à lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Alors une dimension frappante de la théologie de Faust, je pense, c'est sa christologie. L'un des passages célèbres se trouve au livre 20 du Contre-Faust, je cite, 20, paragraphe 2, « Nous adorons, dit Faust, une seule et même divinité, sous la triple appellation de Dieu le Père Tout-Puissant, du Christ son Fils et de l'Esprit-Saint. » Une telle confession trinitaire peut paraître un peu étonnante de la bouche d'un manichéen. Faust commente cette confession trinitaire de la façon suivante. « Dieu, le Père, habite la lumière suprême et primordiale. Le Fils réside dans cette lumière, je passe quelques détails, parce qu'il est lui-même double, comme l'a reconnu l'apôtre quand il dit que le Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu, citation de 1 Corinthiens 1, 24. Et je reprends ce que dit Faust, « Nous confessons encore l'Esprit Saint, qui est la troisième majesté qui fait de tout l'air qui nous entoure, sa demeure et son séjour. » Alors si on regarde de près tout ce que dit Faust dans ce commentaire de cette lecture d'une confession de foi trinitaire, on voit quand même une petite marque caractéristique de la cosmologie manichéenne, puisque Faust ajoute à propos du fils, sa puissance habite dans le soleil et sa sagesse dans la lune. Évidemment, Augustin ne s'empêche pas de ridiculiser cette compréhension cosmique de la christologie des manichéens, c'est dans le Contre-Faust au livre 20, les paragraphes 8 et 9. Dans un tel contexte controverse entre manichéens et chrétiens, on pourrait penser que cette formulation trinitaire de Faust pourrait être en fait une sorte de manœuvre tactique pour et avoir un effort à gagner des voix de chrétiens à la cause du manichéisme. Cette hypothèse me semble très peu vraisemblable. Il me semble que la position de Faust qui reprend comme ça une formulation trinitaire, c'est beaucoup plus la trace de la proximité de la liturgie manichéenne avec celle des chrétiens orientaux des 3e et 4e siècles, et particulièrement dans le monde syriaque. Si je pense maintenant aux psautiers manichéens conservés en copte, on trouve aussi des références à cette perspective trinitaire, et je pense à une exhortation finale d'un de ces psaumes, où il s'agit de passer les dangers de la vie terrestre. Je cite l'édition d'Albury à la page 39. De la gloire, de la prédication de la paix, de la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est en fait une formulation trinitaire qui sert à la doxologie finale du psaume. À la page 49 du psautier copte encore, gloire et victoire au Père, le Dieu de la vérité, et à son Fils bien-aimé le Christ, et à l'Esprit Saint le Paraclet. À la page 62, gloire à toi, ô Dieu de la vérité, et à ton Fils bien-aimé et à ton Saint-Esprit. À la page 82, victoire à toi et gloire, ô Père vivant, et à Jésus-Christ ton Fils et à ton Saint-Esprit. Et je pourrais encore aligner une dizaine de formulations analogues. Cela montre, il me semble, qu'au-delà de la position de Faust que l'on trouve attestée par le contre-Faust d'Augustin, le manichéisme de Faust correspond à ce que nous connaissons du manichéisme hors du domaine latinophone. Et si on cherche un peu plus loin du côté de l'Orient, dans un texte iranien en moyen perse republié récemment par Claudia Lorini dans les Berlin Turfan Texte en 2017, on a une série de formulations liturgiques à propos des différents responsables de la hiérarchie manichéenne, et la formule qui est citée pour le guide, le chef suprême de l'Église manichéenne, il est dit ceci, que le responsable de l'Église soit loué selon la bénédiction du Père, du Fils et de l'Esprit. Alors j'avoue qu'une telle formulation trinitaire de ce style est plutôt rare dans les documents manichéens iraniens, datés pour la plupart à l'origine des textes au 3e ou au 4e siècle de notre ère. Et plus on s'éloigne encore en Orient, et même en Extrême-Orient, par les routes de la soie, j'avoue que la théologie trinitaire que je vous évoque n'est pratiquement plus attestée. On trouve pourtant la trace d'une préoccupation, en tout cas christologique, dans le fameux traité manichéen chinois, un texte conservé en chinois, mais dont on a aussi, par chance, une série de fragments dans des versions parthes, sogdiennes et ouïghours. On a tout un développement sur les trois jours de lumière. Le premier jour renvoie au rôle de l'intellect lumière. Le troisième jour décrit l'appel et la réponse. Le deuxième jour est consacré à l'homme nouveau, dont l'âme est revêtue de vêtements lumineux donnés par la forme victorieuse de Jésus. On a donc de la jésuologie jusque dans ces textes manichéens chinois. C'est dire en quelques phrases métaphoriques le rôle de la figure du Jésus splendeur qui, avec son intellect lumière, nourrit et guide l'âme de tout manichéen dans son chemin vers la perfection. Alors si je reviens à la christologie de l'évêque manichéen Faust, on ne trouve pas vraiment de référence dans le texte du contre Faust, citant Faust, pas de référence à la figure de ce Jésus splendeur. Faust discute principalement du Jésus historique, dans le contre Faust au livre 18. Il utilise des qualificatifs comme le Fils bien-aimé, à propos de l'interprétation du baptême de Jésus. Faust ne nie pas que Jésus soit le Christ, Fils du Dieu vivant. Il l'appelle même notre Christ, le Fils de Dieu, ou le Christ, le Fils de Dieu qui, pour notre salut, a été suspendu au bois. Le Christ, l'image vivante de la vivante majesté. En fait, quand on regarde l'ensemble de ces formulations, on voit qu'il utilise souvent le nom de Jésus, mais pour le bien distinguer de la figure du Christ. Alors, il renvoie au Christ, il renvoie au Jésus historique, et si on pense à la position de Faust dans le livre 26, on pourra être assez étonné de l'ambiguïté du propos de Faust face à ce que dit ses adversaires chrétiens. Et pourtant, je pense que c'est là qu'on touche à quelque chose de la problématique manichéenne de la christologie. Faust, en fait, semble suivre une position qu'on appellerait adoptionniste, c'est-à-dire une position où le Christ est devenu fils de Dieu, mais seulement à son baptême. En effet, Faust déclare explicitement que le Christ n'est pas né, contre Faust 3.1. Il n'est pas né d'un accouplement, il n'est pas né d'une vierge, contre Faust 14.3. Le Christ est fils de Dieu, mais pas fils de David, contre Faust 23.1. En revanche, Jésus est né du couple formé par Joseph et Marie, et cette distinction des deux figures du Christ et de Jésus, le Jésus splendeur, ou comme le dit Faust, le Christ lumière, qui œuvre en l'âme de tout manichéen, et la forme d'esclave, tirée d'ailleurs d'une lecture de l'hymne aux Philippiens, le Jésus terrestre, celui qui s'abaisse à entrer dans un corps humain, cette distinction est souvent mise en relation avec la critique récurrente d'Augustin, qui prend le manichéisme pour une variante de ce qu'on appelle le docétisme. La critique sévère d'Augustin dans le contre Faust 20.11 souligne que le Jésus du manichéen ne peut pas être à la fois dans la lune et le soleil et crucifié sur une croix. Pour Augustin, Jésus n'a pas de chair, n'a pas de corps, c'est donc un fantôme, le Christ des manichéens. Alors, du temps de la fabrication de notre premier volume du contre Faust dans la bibliothèque augustinienne, j'avais renvoyé à un texte copte des Kephaléens de Berlin. C'était pour moi une contribution à un colloque d'études manichéennes en 2017 à Turin. C'est maintenant publié. Je cite « The coming of Jesus without a body », c'est-à-dire en fait un bout de fragment qui dit « La venue de Jésus sans un corps ». C'est une citation directe. Alors, cette formule de la venue de Jésus sans corps est souvent prise par les études sur le manichéisme comme la preuve que le manichéisme lui-même défend une position docète. Mais à l'encontre de cette position, et j'ai essayé de me faire entendre par mes chers collègues, je pense avoir montré qu'en prenant ce passage où il est question d'un Jésus sans corps, il faut interpréter ce texte copte à partir de son contexte immédiat. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu de contradiction de la part de mes collègues. Pas seulement ceux qui sont ici, mais les collègues d'études manichéennes. Le passage du Kephaléon, en fait, est assez simple. Il est malheureusement très lacuneux. Et on prend cette formule d'un Jésus sans corps sans tenir compte de ce que dit le contexte immédiat sur le Christ venu d'en haut. Et toute la page qui suit cette formule, en fait, renvoie à la vie du Jésus terrestre. Jésus terrestre qui aboutit finalement, cette vie qui aboutit finalement à la crucifixion. Ce qui fait que ce qui renvoie à cette venue d'un Christ sans corps ne peut que renvoyer au Christ d'en haut, au Christ lumineux et pas au Jésus terrestre. Moi, j'ai toujours affirmé que le manichéisme prône une incarnation du Jésus terrestre. Et en fait, cette position est tout à fait logique dans le système théologique du manichéisme. L'un des buts de la religion manichéenne, c'est de réussir à purifier la matière du monde pour éliminer sa puissance ténébreuse. Le manichéisme a besoin d'un Jésus terrestre, d'un prophète, comme Mani, comme Bouddha. La purification de la lumière passe par un processus de dialyse des corps mortels et de la matière du monde. Autrement dit, le Jésus crucifié des manichéens exprime précisément cette réalité fondamentale de l'essence du manichéisme. Mais grâce à la vie du Jésus splendeur, qui peut intervenir dans l'âme du manichéen sous la forme de l'intellect lumineux, la purification du monde de la matière est accessible à tout manichéen qui se conforme à un mode de vie quasi monacal. Alors, avec ces trois volumes de la bibliothèque augustinienne, je dirais d'un mot, il est grand temps de revenir à une lecture non hérésiologique du contre-Faust d'Augustin. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Jean-Daniel. Je pense que c'est très dépaysant pour tous ceux parmi nous qui ne lisons pas les manuscrits coptes sur les manichéens, et on peut dire que ça nous donne presque envie d'être manichéens. Alors, nous allons en venir maintenant à Augustin, plus directement, avec Alban Massy. Alban Massy est jésuite, maître de conférence en théologie ici, aux facultés Loyola Paris, après avoir longtemps enseigné à l'IET de Bruxelles. Depuis 2013, Alban est également directeur de la Nouvelle Revue Théologique. Alors, Alban connaît très bien le contre-Faust, puisqu'il y a consacré sa thèse de sciences religieuses et de théologie, voilà, publiée dans la collection des études augustiniennes, une thèse
dirigée par Isabelle,
et Martine, soutenue en 2010 et intitulée « Peuple prophétique et nation témoin, le peuple juif dans le contra-Faustum manichéum » de saint Augustin. Et Alban, tu vas justement nous introduire à ce vaste sujet en essayant de répondre à cette épineuse question. Augustin, dans le contre-Faust, est-il le père de l'anti-judaïsme chrétien? Bon courage.
Merci Hugues, et puis merci Jean-Daniel pour cette présentation du manichéisme et ce souhait qu'on ne revienne pas à l'hérésiologie. J'ai très peur de te décevoir, parce que je commencerai par regarder comment Faust parle lui-même du judaïsme, n'est-ce pas? Mais regardons un petit peu comment les Juifs apparaissent dans le contre-Faust. Un peu de contexte, hein, vous connaissez certainement le jugement que portaient les classiques au temps d'Augustin sur les Juifs. Que ce soit à Rome ou en Afrique. Augustin, dans La Cité de Dieu, cite Sénèque comme un lieu commun. Les coutumes de cette race si criminelle ont pris une telle puissance qu'elles sont reçues déjà dans tous les pays. Les vaincus ont donné leur loi aux vainqueurs. Voilà, le complot juif est déjà présent au temps de Sénèque. Le crime des Juifs serait, selon Sénèque, d'avoir perverti la vie romaine par le repos sabbatique à l'encontre de la religion civique. À Lucilius, le stoïcien suggère ironiquement « Interdisons à quiconque d'allumer des lampes les jours de sabbat, car les dieux n'ont pas besoin d'être éclairés, ni les hommes d'être enfumés ». C'est un peu violent. C'est sans doute une tradition qu'on a à Rome et dont Augustin hérite par ses propres lectures et notamment de Sénèque qu'il appréciait. Trois siècles après, certainement, Augustin entendait la même condamnation du judaïsme de la bouche de païens, mais aussi de manichéens, si on en lit, si on a si on lit les capitulats de Faust. Alors j'aimerais regarder avec vous la manière dont le peuple juif est considéré par les manichéens, ou au moins par Faust. Et puis, dans une deuxième partie, comment ils sont, entre guillemets, défendus par Augustin. Et enfin, si la doctrine augustinienne du peuple juif témoin des Écritures fonde l'enseignement du mépris, selon la formule consacrée par Jules Isaac. La religion juive, pour les manichéens, est une superstition. On se rappellera que dans sa recherche de la vérité, Augustin a participé au rite même des manichéens. Or, dans le contre-Faust, par les capitulats de l'évêque manichéen qui nous sont accessibles grâce à Augustin, Faust appelle « démon des Juifs » celui que la Bible nomme Adonai. Démon. Il ne s'agit pas de l'agathos daimon, le bon génie, comme l'ange gardien des Juifs. Faust l'identifie au principe du mal, opposé à la source du bien qu'est la lumière divine révélée à Mani, sceau des prophètes. Sceau des prophètes, des sages de l'humanité, de tous ceux qui l'ont précédé, mais de ces sages religieux qui ont précédé, qui ont annoncé la loi de vérité portée en Mani, sont exclus précisément les patriarches, les prophètes issus d'Abraham, champions d'un monothéisme strict. Faust, pour qualifier le démon de démon, le dieu d'Abraham et de Moïse, s'appuie sur saint Paul. La première à Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3, au sujet des pratiques alimentaires de la Torah, ce que ne fait pas Paul à cet endroit-là, justement. « Ce sont Moïse, dit Faust, ce sont Moïse et les prophètes qui ont apporté des enseignements de démons, et ils se sont fait les interprètes de l'esprit séducteur et malin. » Dans le Capitulum du livre 30. Alors il est vrai qu'on trouve, et certainement Jean-Daniel me confirmera, qu'on trouve des extraits de livres bibliques de l'Ancien Testament dans des archives manichéennes, et notamment celles qui ont été récemment exhumées au Fayoum. Il s'agit, pour ma part, c'est comme ça que je l'ai lu, de restes d'une dévotion populaire confuse, plutôt que d'un syncrétisme déclaré. Ce qui apparaît des capitulats, c'est que le lien entre le peuple juif et celui qu'Augustin appelle le Verbe incarné, le Christ, fils de David, qui accomplit les prophètes, mais que justement Faust refuse de nommer fils de David, eh bien ce lien entre le peuple juif et le Christ représente pour les disciples de Mani une falsification de la religion chrétienne authentique. La religion très matérielle des Juifs, selon les manichéens, s'oppose au culte véritable de l'esprit. Augustin, jeune auditeur manichéen, est un bon témoin de ce mépris du judaïsme par les manichéens. Il le rappelle dans les Confessions, en particulier au livre 3, où il raconte son entrée dans le manichéisme. Il dit alors que les récits vétérotestamentaires étaient mal écrits, il ne présentait selon lui aucun enseignement moral, il le dégoûtait. Je cite Augustin, « Je critiquais, moi, aveugle, les pères, c'est-à-dire les patriarches, les prophètes, eux, les fidèles. Je riais de tes saints serviteurs et prophètes. » Quand il se convertit, et nous arrivons dans la deuxième partie de mon exposé, quand il se convertit après avoir découvert la valeur du sens allégorique dans l'interprétation de la Bible grâce à Ambroise de Milan, le statut du peuple juif est présent à l'esprit d'Augustin, sur le plan théologique et religieux davantage qu'au plan social et politique. Il découvre alors que l'Ancien Testament qui décrit la vie du peuple juif autrefois fait de ce dernier en quelque sorte une allégorie prophétique du Christ et de l'Église, au contraire de ce qu'affirment les manichéens. Mais alors la question est redoublée. Que devient le peuple juif avec l'avènement du Sauveur et dans le temps de l'Église? N'ont-ils pas terminé leur mission? Autrement dit, comment comprendre l'économie du salut dans la mesure où le mystère de Dieu, le sacramentum qui se montre dans la parole, dans la Bible, comment comprendre cette économie du salut dans la mesure où Dieu se manifeste dans la destinée des Israélites? Pour répondre à cette question, regardons comment, pour Augustin, le peuple juif est le peuple qui fait comprendre la pédagogie divine, la providence en quelque sorte. Et ça, c'est un point de friction avec le manichéisme, justement. Il représente aussi le paradigme de la liberté humaine devant la grâce offerte en Jésus-Christ. Le peuple juif fait comprendre la pédagogie divine. Mais comment ? Cette question est résolue par Augustin grâce à son sens du développement historique. Sous le régime de l'Ancien Testament, le peuple juif fut le dépositaire de la révélation du Dieu unique. Il préparait la venue du Christ et l'Église. On en lit, dit Augustin, les annonces dans les oracles prophétiques. Mais pas seulement. Toute la vie du peuple juif est prophétique, dit Augustin. Et c'est ce qu'il ressort effectivement des longs morceaux d'exégèse typologique de l'Ancien Testament dans le livre du Contre-Faust. Or, depuis l'incarnation, le rôle des Juifs a changé. Augustin affirme que le peuple juif atteste la vérité du christianisme devant les nations, où ce peuple juif a été dispersé. Et il supporte, ajoute Augustin, dans cette dispersion, le châtiment collectif encouru pour sa responsabilité dans la mort du Christ. Nous sommes après la chute du Temple et la dispersion du peuple juif dans les nations. Mais cette dispersion, on le sait, existait bien avant la chute du Temple. Augustin qualifie alors le peuple juif avec les mots qu'il trouve dans l'Écriture elle-même. Le peuple juif, c'est un peuple charnel, endurci, orgueilleux. Charnel, oui, l'expression est péjorative, elle s'oppose à spirituel, qui caractérise le peuple chrétien, mais elle doit être prise du point de vue de l'économie. L'état charnel, c'est une étape obligée de la croissance de l'homme, pour Augustin. Celui-ci passe par degrés, des réalités matérielles, visibles, aux réalités spirituelles. Le peuple juif est lui aussi appelé à devenir spirituel. Le peuple juif, il est orgueilleux. Ce péché reproduit l'illusion qu'ont eu les juifs de croire en leur propre mérite. Et il aboutit à leur aveuglement devant la manifestation de la vérité, de la grâce dans l'incarnation du Christ. Augustin veut alors cerner la profondeur du mystère de la liberté qui a conduit les Juifs à méconnaître la divinité de Jésus jusqu'à le crucifier et le faire mourir. Et à cet égard, il n'aime pas l'expression de peuple déicide, parce que pour lui, c'est en contradiction avec le fait que, non, ils n'ont pas connu Dieu, parce que s'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié. L'endurcissement d'une partie d'Israël, estime-t-il, vérifie la justice, la toute-puissance de Dieu. S'appuyant notamment sur le verset paulinien « La lettre tue, mais l'esprit vivifie » de Corinthiens 3:6, Augustin observe que le peuple juif reste dans la servitude des signes, mais d'une autre manière que les païens vis-à-vis de leur propre rite. Comme il l'écrira dans le De Doctrina Christiana, même dans les offrandes et les signes temporels et charnels, tout en ignorant comment il fallait les comprendre en un sens spirituel, Les Juifs avaient pourtant appris à adorer Dieu, un et éternel. Les Juifs restent les champions du monothéisme. Le jugement d'Augustin envers le peuple juif est donc mêlé. Il est positif quand il montre les Juifs adorateurs du Dieu véritable, préparant l'incarnation, accueillant aussi la grâce du salut. Il aime à rappeler que la première communauté chrétienne était juive. Mais ce regard est aussi négatif. Le refus des Juifs met en évidence la justesse de la compréhension spirituelle des Écritures, opposée à la lecture littérale, charnelle. La grande question d'Augustin est alors celle-ci. Que représente la permanence du peuple juif dans l'histoire? Depuis la manifestation du Christ. Que devient le peuple juif une fois que la loi et les prophètes de l'Ancien Testament sont accomplis dans le Christ? Le peuple juif est témoin de la grâce, témoin malgré lui. Henri de Lubac, nous sommes dans cette salle, Henri de Lubac écrivait que le Contre Faust est comme un immense commentaire de Matthieu 5, 17. Matthieu 5, 17, c'est « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Et c'est un verset que Faust estime falsifié, une interpolation, parce qu'il dit « Non, c'est pas possible. C'est pas possible, ou alors tous les chrétiens devraient être comme des juifs. » Augustin explique cette sentence à partir de deux points. Un regard bienveillant sur l'Ancien Testament comme prophétie du Nouveau, en fonction de la formule paulinienne de l'allégorie, tout cela s'est passé en figure pour nous qui vivons à la fin des temps, dans ce temps de l'accomplissement, 1 Corinthiens 10. Et puis, une explication pédagogique de la loi, au point de vue moral, en vue de l'accueil de la grâce qui permet d'accomplir cette loi. Le Christ permet d'observer la loi. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, Jean 1, 17, un verset qui est cité à longueur de livre par Augustin et que Isabelle Bauchet a bien mis en valeur dans plusieurs articles. Le passage d'un état de vie sous le régime de la loi, sub lege, à un état de vie sous l'action de la grâce, sub gratia, permet à Augustin de répondre au dénigrement manichéen de la loi mosaïque, cette lèpre ou cette teigne sur la loi de vérité, dit Faust. Ce passage fait évoluer le statut du peuple juif de peuple prophétique à peuple témoin. Augustin parle en parallèle d'une mutatio sacramentorum. On est passé des figures à la réalité qu'elles annonçaient. Les signes, les sacramenta de la vera religio ont changé. Ils sont moins nombreux que sous l'Ancien Testament, mais plus efficaces. Il y en a toujours, car on en a besoin. L'Église n'est pas encore dans la pleine vision, dans l'état final in pace. En gardant ses rites, sa manière de vivre son sabbat, le peuple juif est lui-même, dans son endurcissement, un signe de ce changement. Augustin observe la plupart des signes des sacramenta par lesquels Israël a été constitué comme peuple prophétique ont disparu. Le temple, le sacerdoce, les sacrifices. Et pourtant, certains sont encore présents dans la vie du peuple juif contemporain. Règles alimentaires, circoncision, sabbat. Alors, en commentant deux figures, la marque de Caïn et Cham, Augustin constate que les Juifs constituent le seul peuple de tout l'Empire à conserver le signe de sa loi. Et en cela, il rejoint finalement le constat de Sénèque, que je rappelais tout à l'heure. Mais quelle peut être alors la raison de ce signe de conserver sa loi? Augustin répond avec la figure de Cham. Cham, c'est celui qui est devenu l'esclave de ses frères à cause de son impudeur, de son péché envers son père Noé, en Genèse 9. Noé, ivre et nu, c'est la figure du Christ. Mort nu, signe de la condition mortelle, et dans une forme d'ivresse par l'agonie. Autant d'éléments qui caractérisent la passion. Les chrétiens, eux, sont annoncés dans la figure de Sem, le fils qui voile avec révérence Noé, c'est-à-dire la condition mortelle mise à nu dans la passion du Christ par le mystère de l'unité. L'Église, c'est l'Église qui voile la mort du Christ. Et Cham, lui, c'est celui qui ne comprend pas la gravité de la situation, qui sort dehors se moquer de son père. Ce sont les Juifs, mais, précise Augustin, aussi les hérétiques, car ils manquent de la piété, ils ne savent pas reconnaître le Dieu véritable dans le Christ, et ils manquent de la charité, sans laquelle la foi ne vaut rien. En d'autres termes, le peuple juif, esclave des signes de la loi, témoigne de la liberté du culte chrétien. La raison d'être des Juifs est de témoigner de la vérité de la liberté chrétienne. Alors, voici cette doctrine du peuple témoin, est-elle le fondement de l'enseignement du mépris, selon la formule de Jules Isaac ? La notion de peuple témoin s'enracine dans l'affirmation classique de l'antiquité des livres des Juifs, que l'on trouve déjà dans les apologies de Tertullien ou de Lactance. Mais l'argument est employé de manière spécifique par Augustin, puisqu'il transpose cette idée dans le temps de l'Église avec les figures de Caïn et de Cham. La marque de Caïn récapitule l'ensemble des éléments cultuels qui font des Juifs un peuple à part dans le monde romanisé, puis christianisé, ce qu'Augustin accepte. À aucun moment il dit qu'il faut supprimer le culte des Juifs. L'esclavage de Cham symbolise la lecture littérale des livres de l'Ancien Testament dans la pratique cultuelle des Juifs, ce qui n'est pas une invitation à donner au peuple juif un statut social défavorisé, mais qui lui donne une fonction herméneutique. Très concrètement, il est arrivé à Augustin, évêque, de devoir juger des différends entre chrétiens et juifs, et il l'a fait en faveur de ces derniers. Peut-on parler de mépris ? On sait que l'argumentation augustinienne a été comprise, et notamment à la suite de l'important ouvrage et nécessaire ouvrage de Bernard Blumenkranz, « Juifs et chrétiens dans le monde occidental », en 1960, comme un encouragement à la servitude des Juifs au Moyen-Âge et à ce que Jules Isaac a nommé l'enseignement du mépris. À Yad Vashem, le portrait d'Augustin trône à côté d'un brassard nazi. Il me semble que l'influence augustinienne a été largement surestimée. Je ne suis pas le seul à le dire, un regard historien montrera en effet que les lois de servitude au Moyen-Âge ont commencé en Espagne visigothique au temps d'Isidore, d'Isidore qui n'est pas l'interprète, à mon avis, le plus fidèle ou autorisé d'Augustin sur cette question précisément. Ces lois s'originent plutôt dans le droit romain. La circoncision est incriminée depuis le règne d'Adrien au début du IIe siècle, d'ailleurs sans visée anti-juive, mais plutôt au nom de l'humanitas, du respect de la personne en son corps. Capucine Nemo Pekelman a prouvé que les lois stigmatisant les juifs se trouvent déjà dans la production législative constantinienne des premières années du IVe siècle, d'origine chrétienne, certes, mais avant Augustin. Au contraire, la théorie augustinienne du peuple témoin est sous-jacente dans les interventions d'un pape Grégoire contre les violences faites aux Juifs, par exemple dans sa lettre à l'évêque de Palerme en 598, « Sicut Iudaeis ». Elle est quasiment reprise à la lettre dans la colère de Saint Bernard pour exiger des princes la protection des Juifs au moment des croisades. Aujourd'hui, sans doute la reconnaissance du pluralisme religieux, une interprétation nouvelle de la notion d'accomplissement, nous a éloignés, heureusement, de la théorie de la substitution. Celle-ci a pu certes se nourrir de textes augustiniens, mais il me semble que l'examen montrera une utilisation figée de ces textes, oubliant que la théologie augustinienne est ouverte à l'eschatologie, dans une histoire qui n'est pas achevée, qui vise l'unité du genre humain. Cette unité, juifs et chrétiens, en sont à divers degrés des témoins et des artisans dans le paradoxe de l'élection et de l'universalité du salut. L'œuvre d'Augustin peut peut-être nous empêcher de céder au jugement hautain sur les Juifs. Il faudra enseigner Augustin à Sciences Po. L'espérance de la joie de la communion finale est peut-être la raison pour laquelle il ne faut pas trop vite dire qu'Augustin est le théoricien de l'antijudaïsme. Il est d'abord le théoricien de la grâce dans l'histoire, dont les Juifs sont les premiers témoins. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Alban. Je pense que tu as clairement répondu à la question et tu nous montres une fois de plus l'importance de revenir à Augustin par-delà tout ce qu'on a pu lui attribuer. Pour reprendre les mots de Marou, à revenir à Augustin par-delà tous les augustinismes, et notamment dans ce domaine-là. Alors nous allons enfin écouter Isabelle Baucher. Selon la formule consacrée, Isabelle n'est plus à présenter, mais je la présenterai tout de même. Elle est membre de la communauté apostolique Saint-François-Xavier, docteur HDR en philosophie. Isabelle Baucher est professeure ici aux facultés Loyola Paris, chercheuse à l'Institut d'études augustiniennes. Elle appartient à de nombreux comités de rédaction, l'Augustus Sexicon, les archives de philosophie, la revue d'études augustiniennes et patristiques. Et avec Martine Dulahaye, qui est en ligne avec nous, Isabelle est la cheville ouvrière de nombreuses publications de la bibliothèque augustinienne et notamment de la présente publication que nous présentons ce soir, Le Contre-Faust. Vous allez nous faire comprendre l'importance de la question du péché dans Le Contre-Faust.
Donc, effectivement, j'ai choisi de vous parler de la question du péché, car c'est un thème très important du livre 22, donc qui est publié dans le troisième volume, qui doit sortir dans quelques semaines. Et évidemment, cette question est au centre, est importante dans le débat avec le manichéen Faust. Faust, effectivement, reproche aux catholiques de vouloir à la fois que les auteurs de l'Ancien Testament ne soient pas menteurs et que, je cite, « les hommes dont ils ont raconté les turbitudes et la vie scandaleuse soient des êtres religieux et saints ». Autrement dit, selon Faust, on ne peut pas tenir à la fois que l'Écriture est valable, est digne de respect, que l'Ancien Testament est digne de respect, en constatant que les patriarches et les prophètes ont mené apparemment une vie tout à fait scandaleuse. On doit choisir entre l'un et l'autre. Soit les auteurs de l'Ancien Testament sont des menteurs, soit les actes racontés par l'Ancien Testament sont de véritables crimes. Et donc, dans le premier cas, on ne peut que récuser ces livres si on veut sauver les patriarches et les prophètes. Et dans le second, il faut condamner les actes injustes qu'il rapporte. Alors Augustin s'efforce de répondre à ces questions de façon longue dans le livre 22 du Contre-Faust, d'une part en examinant la valeur morale des actes des patriarches et des prophètes racontés dans l'Ancien Testament, et d'autre part en s'interrogeant sur la raison d'être de ces récits apparemment scandaleux dans l'Écriture. Il indique clairement sa démarche dans le paragraphe 26. Je cite un petit extrait. « Il nous faut considérer d'abord la nature du péché, puis examiner les actions des saints afin de nous rendre compte, selon une démarche aussi attentive que possible, au cas où nous trouverions que ces saints ont péché, de l'utilité qu'il y avait à consigner ces fautes par écrit et à les transmettre à la postérité. Donc le programme est clair, définir la nature du péché, s'interroger sur les actions des patriarches et des prophètes pour se demander si vraiment ils ont péché et s'ils sont coupables des crimes épouvantables que leur attribue Faust, et enfin que semble leur attribuer aussi le texte, et si c'est bien le cas, s'interroger sur l'utilité de tels récits dans l'Ancien Testament. Alors, quelques mots d'abord sur la définition du péché. Je note d'abord que le vocabulaire de Faust et celui d'Augustin ne sont pas exactement le même, c'est-à-dire que Faust emploie très rarement le terme « peccatum » et il privilégie très largement le terme de « vicia », donc des vices, de « turpitude », « flagitia », d'actes iniques ou encore de crimes, crimina, le mot crime est très fréquent. Alors qu'Augustin, lui, privilégie le terme peccatum, même s'il utilise en réponse à Faust le terme crimen dans le livre 22. Dans le vocabulaire d'Augustin, au-delà même du contre-Faust, le crimen désigne un péché grave qui entraîne en toute justice accusation et condamnation. Par exemple, l'homicide, l'adultère, le vol, la tromperie et autres fautes de ce genre. Tout crimen donc, est donc bien évidemment un peccatum, mais l'inverse n'est pas vrai. Autrement dit, le péché n'est pas, peut ne pas être donc un crime, enfin une accusation grave qui mérite condamnation. Alors, la définition qu'Augustin donne sera reprise par saint Thomas, sans doute à cause de sa concision et de son intérêt. Et donc, je vais m'y attarder un tout petit peu. Pour Augustin, le péché est une action, une parole ou un désir contraire à la loi éternelle. Alors, je note d'abord que pour Augustin, il n'y a de péché que là où il y a libre arbitre. Et Augustin écrit dans le contre-Faust, donc il faut qu'il y ait une volonté qui puisse faire le choix de pécher ou de ne pas pécher, car c'est dans la volonté propre que se trouve l'origine du péché. C'est au paragraphe 22. Bon, ça c'est un thème qu'on retrouve très largement développé dans d'autres œuvres d'Augustin, notamment bien sûr dans le traité du libre arbitre au livre 1, et dans le traité intitulé « Des deux âmes » où il propose la définition suivante du péché. « Le péché est la volonté de retenir ou d'obtenir ce que la justice défend et dont on peut librement s'abstenir. » Et le même texte précise qu'il n'y a péché que là où il y a à la fois vouloir d'une chose injuste et liberté de ne pas vouloir. Donc s'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de péché. Ça, c'est le premier point à tenir. Deuxième point à retenir, c'est que le péché se définit par la transgression de la loi éternelle. C'est une action, une parole ou un désir contraire à la loi éternelle. Bon, ça c'est une définition qu'on avait déjà dans le traité du libre arbitre à la fin du livre 1. Et Augustin expliquait comment le péché est un désordre de l'âme qui refuse de se soumettre à la loi éternelle, bon, et qui va privilégier la quête de biens temporels. Donc on peut dire que le contre-Faust prolonge en quelque sorte la réflexion du traité du libre arbitre, mais le point de vue en est autre, parce que dans le De libero arbitrio, l'ordre est celui de la découverte, c'est-à-dire que Augustin explique comment peu à peu il s'est libéré de la solution manichéenne au problème du mal, et il ne parvient à la définition du péché qu'à la fin du livre 1, en affirmant en même temps le libre arbitre. Dans le livre 22 du Contre-Faust, au contraire, il adopte un point de vue déductif, c'est-à-dire qu'il pose au point de départ la définition du péché et il va l'utiliser pour examiner si, oui ou non, les patriarches ont péché. Donc c'est un exposé systématique. Alors, l'intérêt de cette définition, c'est qu'elle englobe les différentes modalités du péché. Son intérêt aussi, c'est sa concision, parce qu'elle retient simplement la mention de la loi éternelle, alors que nous avons des formulations beaucoup plus complexes dans des traités antérieurs, comme le traité du libre-arbitre. Et si Augustin privilégie ici le thème de la loi et de la loi éternelle, c'est certainement pour répondre à Faust lui-même. Alban y a fait allusion tout à l'heure. Faust distingue trois types de lois. Bon, la loi des Hébreux, qu'il identifie à la loi du péché et de la mort, la loi des païens, que Paul dénomme la loi naturelle, et la loi de la vérité. Et Faust oppose la loi naturelle, qu'il accepte et dont il reconnaît la dignité, aux prescriptions judaïques qu'il critique très vigoureusement. Et il se présente lui-même, je cite, « comme ennemi du judaïsme, mais non de la loi, mais c'est-à-dire, bien sûr, la loi naturelle. » Alors, Augustin, plutôt que de parler de loi naturelle ici, parle essentiellement de loi éternelle, mais néanmoins, dans le paragraphe 27, il associe loi éternelle et loi naturelle. Mais l'expression loi naturelle est beaucoup plus rare. Alors, quelle est la définition de la loi éternelle? Vous l'avez aussi au paragraphe 27. La loi éternelle est la raison divine ou la volonté. Pardon. Donc la raison divine ou la volonté de Dieu commandant de maintenir l'ordre naturel et interdisant de le bouleverser. Je note la parenté de cette définition avec celle de Cicéron dans le De Legibus, puisque Cicéron écrit « La loi est la raison souveraine incluse dans la nature qui nous ordonne ce que nous devons faire et nous interdit le contraire. » Et un peu plus loin, enfin dans le livre suivant du De Legibus, « La loi véritable et première, propre à commander comme à interdire, est la droite raison de Jupiter suprême. » Mais vous voyez bien en même temps que s'il y a une certaine parenté, il y a aussi une différence, c'est-à-dire que bon, les parentés de Cicéron, les expressions de Cicéron reprennent des expressions stoïciennes. Et la raison divine est pour les stoïciens coextensive à la nature, alors que pour Augustin, la raison divine ou la volonté de Dieu transcende la nature puisqu'elle en est l'origine. Je disais aussi que la loi éternelle est définie en référence à l'ordre naturel dont elle assure le maintien. Mais alors pour définir cet ordre naturel, Augustin précise la hiérarchie interne à l'homme. Eh bien, selon Augustin, qui détermine cet ordre aussi en comparant l'homme à l'animal, il dit que l'âme a prééminence sur le corps, que dans l'âme elle-même, la raison a la préséance sur les autres parties de l'âme, et que dans la raison elle-même, la raison contemplative l'emporte sur la raison qui s'applique à l'action. Donc le respect de l'ordre naturel sera le respect de cette hiérarchie. J'ajoute qu'Augustin ne se contente pas de cette définition objective du péché, il s'efforce de comprendre quelles en sont les motivations subjectives. Et il examine pour ce faire la notion de délectatio, donc de plaisir, d'attrait. Et il souligne que si l'homme vient à pécher, c'est parce qu'il cède à l'attrait des plaisirs mortels, et qu'il ne respecte pas la mesure naturelle. Et c'est de cette façon qu'il contrevient à l'ordre, car les plaisirs auxquels il cède sont illicites dans la mesure où ils ne sont plus régulés par la loi qui assure le maintien de l'ordre naturel. Et cette remarque lui donne l'occasion d'une digression où il fait apparaître le rôle intermédiaire de l'homme, qu'il compare d'une part à l'animal et d'autre part aux anges. Et il explique que l'animal ne pêche pas parce qu'il ne peut pas violer la loi éternelle dans la mesure où il y est soumis sans pouvoir y participer. Les anges bons ne pêchent pas davantage, mais évidemment pour une raison différente, c'est parce qu'ils participent de la loi éternelle et donc ils n'ont pas la moindre tentation. L'homme, en revanche, est sujet au plaisir mortel en raison de sa condition animale, mais il est appelé à trouver tout son plaisir en Dieu comme les anges. Et donc, de ce fait, tout en étant soumis à la loi éternelle parce qu'il a de commun avec les animaux et appelé à devenir participant de la loi éternelle quand il deviendra l'égal des anges dans la résurrection, eh bien, de ce fait, bon, ben, il peut pécher à la différence des animaux ou des anges. Ce qu'ajoute Augustin, c'est que même lorsque l'homme pêche et transgresse la loi éternelle, il ne peut pas échapper ultimement au jugement de cette loi éternelle et donc à la condamnation si vraiment il a péché. Alors, à partir de cette définition, Augustin précise les critères à appliquer pour déterminer si les actes que l'on trouve dans le récit de la Genèse, notamment, et plus généralement dans l'Ancien Testament, sont ou non des péchés. Alors, la première question à se poser est la suivante. Est-ce que l'acte que l'on considère s'explique par la volonté de se conformer à l'ordre naturel ou bien par la passion? Alors, cette question, Augustin la pose évidemment tout particulièrement pour les relations sexuelles qui sont au centre des griefs de Faust à l'égard des patriarches. Alors, évidemment, pour beaucoup de patriarches, alors il aborde bien sûr le cas d'Abraham. Il va parler aussi de Lot, de Jacob, de Judas et de Tamar. Et, disons, en gros, le principe est le suivant. C'est que si l'union a pour but la procréation, la sauvegarde de l'espèce, elle n'est évidemment nullement condamnable. Si elle a comme unique but l'assouvissement d'un plaisir charnel, évidemment, elle pose problème, surtout si elle aboutit à des actes désordonnés. Donc, je lis une citation du paragraphe 30. « La loi éternelle, c'est-à-dire la volonté de Dieu, auteur de toutes les créatures, veille pour la conservation de l'ordre naturel, non à l'assouvissement du désir, mais à la sauvegarde de l'espèce, et permet ainsi à l'homme, seulement pour avoir une descendance, de se laisser aller au plaisir de la chair mortelle, dans la relation sexuelle sous l'empire de la raison. » Alors, avec ce principe, ce critère, eh bien, Augustin va expliquer que l'union de la n'est nullement un péché, puisque finalement, c'est Sarah elle-même qui a conduit Abraham à s'unir à sa servante, parce qu'elle voulait qu'il y ait une postérité. Il va même, avec ce principe, jusqu'à justifier l'union des filles de Lot avec leur père. Bon, il dit bien que c'était une action vicieuse, mais il explique que les filles de Lot avaient peur qu'il n'y ait plus de génération, enfin qu'il n'y ait plus de descendance humaine. Et donc c'est comme ça qu'il justifie d'une certaine façon cet acte. Mais avec ce même critère, il va porter un jugement vraiment sévère sur Judas et Tamar, ou encore sur Salomon, qui eut de nombreuses femmes, non pour s'assurer une descendance, mais pour satisfaire sa sensualité. il applique le même critère aux homicides ou aux guerres. Et alors là, on voit bien, il va examiner quelle est l'intention du génocide. Bon, si je schématise, on peut dire que si l'homicide ou la guerre est déterminé par l'obéissance à un ordre venu de Dieu, il ne s'agit pas d'un péché. Si en revanche, c'est l'expression, enfin la résultante d'une passion, il est clair que ce sera un péché. Et alors si on prend le cas de Moïse, évidemment quand il tue l'Égyptien en Égypte, il est clair qu'il n'a pas fait ça sur ordre de Dieu, donc cet acte est condamnable. En revanche, quand il ordonne un châtiment après le veau d'or, ou quand il va y avoir des guerres, disons, qui ont été, enfin, qu'il mène pour suivre les ordres divins, eh bien, dans ce cas-là, ce n'est pas un péché. Alors, évidemment, le problème rebondit. Enfin, je suppose que pour vous, le problème rebondit, parce que même si on admet que Moïse, par exemple, a obéi à Dieu en faisant de telles guerres, on peut se demander pourquoi Dieu a ordonné de telles guerres. Alors, la réponse d'Augustin ici, bon, à son intérêt, même si on peut bien sûr en discuter, mais il explique qu'il faut prendre en compte la différence des époques. Autrement dit, il y a un certain regard historique en expliquant que on ne peut pas juger des actes ou dans une époque ancienne de la même façon qu'à notre époque. Enfin, il a une sorte de relativité historique. Et en tout cas, pour lui, ce qui est déterminant pour juger d'un acte, c'est l'orientation du désir, autrement dit, la fin poursuivie par la volonté. Et Augustin ajoute que l'homme n'est pas apte à déterminer les mérites ou les démérites d'un autre homme, car Dieu seul voit le fond des cœurs, et que des actes ou des paroles semblables peuvent procéder d'un cœur dissemblable. Ainsi, on a le sentiment, quand on lit l'Ancien Testament, que Saül a dit tout comme David qu'il avait péché, alors que David seul s'est entendu dire que le Seigneur le pardonnait. Mais note Augustin, d'une certaine façon, les démons ont fait apparemment la même profession de foi que Pierre dans le Christ. Mais en fait, c'était d'un cœur très différent. Donc là, on a quand même un thème qui est très important chez Augustin, c'est-à-dire que c'est l'orientation du cœur, c'est l'intention qui va déterminer la valeur de l'acte. C'est un thème très important dans son œuvre. Et à partir de là, d'ailleurs, il explique comment un homme comme David, qui a quand même commis des fautes graves, a pu être loué dans l'Ancien Testament, dans la mesure où il s'est converti aussi de façon radicale et où, comme l'écrit Augustin, la radicalité de sa conversion a promis une moisson féconde et luxuriante, comme lorsqu'on arrache une grande quantité de ronces ou qu'on cultive un champ jusque-là en friche. Quelques mots maintenant sur l'utilité de tels récits dans l'Ancien Testament, puisque une fois qu'on a admis que il y avait malgré tout le récit de péché dans l'Ancien Testament, il faut se demander pourquoi donc l'Écriture contient-elle de tels récits. Parce que on peut être scandalisé malgré tout par la présence de ces récits si on les prend, si on les lit de façon normale. Voilà. Alors il y a deux. Même si Augustin s'efforce parfois de défendre, disons en quelque sorte de sauver certains actes, j'ajoute quand même qu'il émet à plusieurs reprises des doutes. C'est-à-dire, il cherche à sauver l'acte en disant « Bon, peut-être que par exemple, Sarah était effectivement la sœur d'Abraham, mais il n'est pas complètement convaincu non plus. » Il explique que de toute façon, Abraham a pu taire une vérité sans pour autant dire un mensonge. De même, il dit qu'on ne peut pas imputer à Lot une action incestueuse, mais en revanche, on peut le blâmer pour son ivresse. En bref, son jugement est nuancé et ne cherche malgré tout pas à justifier à tout prix tous les actes scandaleux qu'on peut lire dans l'Écriture. Alors, pourquoi donc la présence de ces textes? Eh bien, il y a deux raisons. L'Écriture est un miroir fidèle, et d'autre part, l'Écriture est un livre de médecine. Donc, deux images qui, à mon avis, expliquent bien pourquoi ces actes sont racontés dans l'Écriture. Donc, la présentation de l'Écriture comme miroir fidèle encadre le développement consacré au péché de Lot et à celui de Judas et de Tamar, donc deux récits particulièrement scandaleux. Je cite, c'est au paragraphe 60, « Le péché de Lot non seulement ne défigure pas la divinité de Dieu ou la vérité de l'Écriture, mais même recommande celle-ci à nos louanges et à notre amour, puisque, avec la fidélité d'un miroir bien poli, elle réfléchit non seulement ce qu'il y a de beau et de saint, mais encore ce qu'il y a de laid et de vicieux dans les personnes qui s'y reflètent. » Pour Augustin, ce qui est important dans la Bible, c'est l'histoire du salut. Et ce qu'on attend d'un récit historique, c'est qu'il raconte les faits de façon fidèle et utile. Quand l'Écriture rapporte de tels faits, elle ne les approuve pas pour autant. Et ces récits apparemment scandaleux ne portent pas davantage atteinte à la divinité de Dieu si on comprend que Dieu n'est pas l'auteur de ces faits. Mais les éclairer, c'est en même temps donner à voir à l'homme qui s'aveugle souvent sur sa condition. Je cite, c'est au paragraphe 61, « Est-ce que des membres tordus font tort à la lumière qui révèle toute chose ? De même, les mauvaises actions d'aucun homme ne rendent mauvaise l'Écriture qui les révèle et les fait connaître au lecteur. » Donc, l'Écriture, miroir fidèle, nous fait connaître nos propres péchés. Je dirais que c'est la première raison. Donc, et en plus, elle nous montre ce que certains, à partir de là, se convertissent, que d'autres, que des justes, au contraire, ont pu céder au péché. Enfin, bref, elle nous incite à la conversion et à la vigilance. Mais l'Écriture est aussi comparée par Augustin à des livres de médecine. Et donc, Augustin explique que, oui, il dit que les manichéens sont invités à s'y fier pour avoir la santé d'une pudeur non pas fausse et fantomatique, mais vraie et solide. Bon, et là, en particulier, il explique que, comment la condamnation par les manichéens des unions sexuelles relève d'une pudeur fausse et fantomatique, alors que la véritable pudeur est de satisfaire au devoir de procréation sans se laisser entraîner et vaincre par l'aiguillon du désir sexuel. Il explique aussi que on peut faire un bon ou un mauvais usage des récits de l'Écriture. Évidemment, si on se sert du récit du péché de David comme une incitation à pécher, c'est-à-dire qu'on se dit, vu ce qu'a fait David avec Bethsabée, je peux faire pareil. Évidemment, ça revient à utiliser un texte qui est fait pour nous éclairer et pour nous guérir, pour se blesser soi-même. Bon, David est en contraire donné en exemple pour que les malades guérissent. Autrement dit, si on raconte son péché, mais aussi la manière dont il a demandé pardon et dont il a fait pénitence, c'est précisément pour nous inciter à faire de même. Je conclus sur ce point en disant que donc la Bible, pour Augustin, ne nous propose pas un idéal de sagesse, mais elle nous propose l'histoire d'hommes imparfaits que Dieu transforme par sa grâce. Il y a une deuxième utilité de ces récits, c'est de montrer comment Dieu fait du bien à partir du mal. On trouve à trois reprises l'affirmation suivante dans le livre 22. « Dieu sait faire sortir le bien même du mal que commettent les hommes. » Alors, La formule s'applique dans deux cas. Elle s'applique d'abord et essentiellement aux unions sexuelles illicites qui donnent naissance à un enfant. Et c'est évident que les enfants qui naissent de ces unions sont un bien, même si l'union était elle-même illicite. Mais elle vaut aussi, de façon analogique, des actions mauvaises dont la signification est prophétique. Évidemment, ceci, pour l'admettre, ça présuppose que la providence divine gouverne l'histoire de telle façon qu'elle soumette même les péchés à l'ordre sans en être pour autant l'auteur. Alors, comme le temps passe, je ne vais pas entrer dans le détail de ces deux manières qu'a Dieu de tirer une forme de bien du mal. Je précise simplement, mais Hugues Vermès pourrait l'expliquer encore mieux que moi à partir de sa thèse, que le bien ne sort pas du mal comme tel. Le mal n'est pas une matière dont Dieu tirerait du bien, mais c'est plutôt l'occasion à partir de laquelle Dieu va faire du bien. Bon, et quant à la manière dont un acte mauvais peut signifier, avoir une signification prophétique, ce qu'Augustin souligne, c'est que ce qui importe, c'est qu'il y ait une certaine ressemblance, une certaine concordance, autrement dit qu'un acte puisse vraiment signifier l'autre. Mais à la limite, la valeur de l'acte est seconde et n'empêche pas cette relation de signification. Je vais dire quelques mots juste en conclusion sur la providence divine et la mise en ordre du mal. La conviction d'Augustin, c'est que Dieu est maître du temps et de l'histoire. Pour lui, rien n'est nouveau de ce qui naît, rien n'est perdu de ce qui meurt, de sorte que, je cite, « chaque chose disparaît, apparaît ou subsiste dans son ordre, celui des natures ou des mérites ». C'est au paragraphe 78. Donc Dieu conduit l'histoire, et c'est comme ça qu'il faut lire ces textes. Deuxième conviction forte d'Augustin, c'est que Dieu n'est pas l'auteur des péchés, mais qu'il les permet dans certaines limites, des limites qu'il pose, de sorte que tout soit régi par l'ordre divin. Autrement dit, si on commet le mal, ce mal ne restera pas impuni d'une façon ou d'une autre, et il fera l'objet d'un jugement. Le péché, par exemple, est puni par la peine du péché, c'est-à-dire l'ignorance, la faiblesse, la mortalité. Et Dieu seul peut faire que tel mal soit finalement utile à l'un par une miséricorde gratuite ou nuisible à tel autre par un juste jugement. Mais de cela, nous ne pouvons que croire cela, mais nous ne pouvons pas pénétrer dans les secrets de la providence divine. On ne peut que croire que Dieu ordonne l'histoire, mais gouverne l'histoire, mais sans pouvoir comprendre comment cela se fait. Et je conclurai simplement en évoquant l'épigraphe du soulier de satin, Etiam peccata, qui donc a donné, que Hugues a choisi comme titre pour sa thèse, qui va bientôt paraître. En épigraphe du soulier de satin, Paul Claudel comprend ces mots comme une glose d'Augustin à Romains 8, 28. Toute chose contribue au bien, coopère au bien, même les péchés. Alors, ce que je viens d'expliquer du livre 22 du Contre Faust semble donner raison à ceux qui estiment que l'expression « etiam peccata », même les péchés, sans être présente matériellement dans l'œuvre augustinienne, correspond néanmoins à la pensée d'Augustin. Bon, de fait, comme l'a montré Hugues, Augustin n'utilise jamais cette expression en rapport avec Romains 8, 28, ni dans le sens habituellement reçu, selon lequel Dieu utilise les péchés au profit des pécheurs eux-mêmes, mais néanmoins, il me semble que ce qu'on lit dans le livre 22 du Contre Faust permet de montrer en quel sens ça peut avoir un sens augustinien. Je vous remercie.
Merci beaucoup Isabelle de nous avoir montré la richesse de la conception augustinienne du péché dans ce livre 22. Une conception qu'on a parfois du mal à recevoir aujourd'hui. Et ce livre est très important. Alors vous avez parlé de la postérité de la définition du péché en contre Faust 22. Et encore aujourd'hui, dans le catéchisme de l'Église catholique, dans le paragraphe qui définit ce qu'est le péché, le seul auteur cité et le seul texte cité, c'est le contre Faust 22. Donc ça vous dit à quel point, jusqu'à aujourd'hui, cette définition de contre Faust 22 a une importance dans la théologie chrétienne et catholique. Alors il nous reste un bon quart d'heure, jusqu'à 21h30, pour poser des questions à nos trois orateurs. On peut également, s'il l'accepte, interroger Michel-Yves Perrin, on a la chance de l'avoir parmi nous, et également Martine Dulahaye, qui est normalement encore en ligne parmi nous. Voilà, donc on a cinq contributeurs à cette édition du Contre Faust, et donc n'hésitez pas à poser des questions, soit ici, soit en ligne également. Je pense qu'Alban pourrait relayer des messages de questions posées. Alors il y a, je ne sais pas s'il y a déjà des questions ici, sinon il y en a en ligne. On peut prendre des questions en ligne pendant que vous réfléchissez.
Le rejet de l'Ancien Testament et une influence du manichéisme sur l'islam, sur l'expression du sceau des prophètes qui est appliqué aussi à Mahomet. Voilà, il y avait une question subsidiaire sur les capitulats. Est-ce qu'il y a des traces des capitulats ailleurs que chez Augustin? Et de manière générale, est-ce que Augustin a laissé des écrits authentiques des manichéens? De Manille en particulier.
Oui, alors, que sait-on du martionnisme derrière le manichéisme? Il est vrai que la façon dont les Elkassaïtes, dont je vous disais qu'était le milieu d'origine, en fait, judéo-chrétien baptiste de Manille, avant qu'il ne soit exclu de ce milieu-là, c'était visiblement dans leur façon de penser leur rapport à la loi juive comme un rapport déjà problématique. Si Mani a été exclu des Elkassaïtes, il a du coup rejeté aussi la loi des Elkassaïtes, mais ce rejet de la loi, en fait, est déjà un peu présent dans les quelques rares sources qui nous restent des Elkassaïtes. Et donc, ces sources-là nous rapprochent effectivement de ce qui s'est passé en plein milieu du IIe siècle. À partir du moment où on a valorisé fortement la figure de l'apôtre Paul, en utilisant certaines paroles de l'apôtre Paul, on a du coup dévalorisé le rapport à la loi. Et donc, et ça, on le trouve effectivement du côté du martionnisme. Alors, au-delà du manichéisme profondi, il est vrai que si on pense au prophète El-Kassai, au prophète Mani, à la façon dont les manichéens parlent de Zoroastre ou de Bouddha comme des prophètes, il n'est pas étonnant du tout que celui qu'on appelle le sceau des prophètes, dans les textes manichéens, ça soit quelque chose que l'on retrouve dans l'islam aujourd'hui. Et donc il y a effectivement quelque chose qui n'est pas en fait assez bien étudié aujourd'hui. Quelles étaient les sortes de manichéens qu'on trouvait dans l'Arabie du 5e, 6e, 7e siècle, avant la naissance de l'islam? Mais il y a quand même trop de choses qui nous rapprochent d'une prophétologie manichéenne quand on essaie d'expliquer la prophétologie de l'islam. Quant au capitula, il est clair que les découvertes coptes nous montrent des capitulas coptes, indépendamment des capitulats de Faust. Et donc, ce genre littéraire est tout à fait utilisé, en général, pour rassembler des exemples de controverses et d'arguments des controverses qui, dans les discussions que les manichéens avaient avec les chrétiens, à quoi sert l'Ancien Testament ? C'est pas étonnant qu'on trouve dans les Capitula de Faust, cette question fondamentale dont les manichéens héritent sans doute de prédécesseurs du côté du martionnisme.
Merci.
Une question pour Isabelle.
Alors, je peux répondre un peu. En tout cas, on trouve chez Faust vraiment l'idée que Dieu est cruel, que le Dieu de l'Ancien Testament est cruel, qu'il est ignorant. Donc là, on a vraiment des attaques assez fortes. En revanche, à ma connaissance, j'ai pas le sentiment du tout qu'Augustin applique aux guerres le type d'argument que vous venez d'évoquer. Il s'efforce plutôt de remettre ça dans un contexte historique et de légitimer ces guerres et par l'ordre divin dans un contexte donné. Mais je sais pas si... Enfin, vraiment, je vois pas dans ce texte, quand même, on l'a bien lu. Oui. Oui. En tout cas, on ne le trouve pas à propos du tout... Enfin, à ma connaissance, on ne le trouve pas du tout à propos des guerres. Vraiment pas.
Alors, une première façon de répondre à la question, c'est que si on essaye de voir ce qui nous reste des paroles de Mani, on a quelques traces quand même d'œuvres de Mani citées par les auteurs manichéens, et si on regarde la façon dont les disciples de Mani, en particulier le disciple Hadas, qu'on connaît par Augustin aussi sous le titre d'Adimante, il semble visiblement que la controverse avec l'Ancien Testament est beaucoup plus forte et explicite et hargneuse chez les disciples de Mani, et précisément suite aux controverses entre manichéens et chrétiens au 3e et 4e siècle. Et donc, si on reste au manichéisme originel, effectivement, il est difficile de penser à une prophétologie qui progressivement irait au-delà de Mani. Il y a des grands prophètes, y compris dans les patriarches, disons dans Genèse 1 à 6, quelque chose comme ça. Les manichéens reconnaîtraient ce rôle de prophète, mais je ne pense pas qu'on puisse tirer de ce que disent les manichéens. Il n'y a pas une succession des prophètes, je dirais, de père en fils, ou de père en fils spirituel, pas plus qu'il n'y a une sorte de progression qui va jusqu'à la personne de Mani. Mani est sceau des prophètes, au sens où il récapitule ce qu'ont été les prophètes avant lui. Mais ça ne sous-entend pas que c'est le super prophète par rapport aux autres.
Alors, par rapport à Romains 11, la finale de Romains 11, hein, tout Israël sera sauvé, Augustin ne l'évoque pas explicitement dans le contre-Faust. Mon idée, c'est que l'eschatologie manichéenne apparaît dans les Capitula de la fin des Capitula, c'est 32-33. Et Augustin, à mon avis, a lu tous les Capitula avant d'y répondre, un par un. Il est tout à fait possible qu'il se soit gardé pour la fin, mais qu'il n'ait pas eu l'occasion, parce que à la fin, il le dit clairement, j'en ai un peu marre de répondre, et il va très très vite, Augustin. Mais on sait que dans la pensée d'Augustin, ces versets sont très très importants, et il ne sait pas une position très arrêtée, parce que de quel Israël s'agit-il au fond? Est-ce que c'est l'Israël croyant, tout Israël? Est-ce que les véritables Israélites sont incrédules? Dans la cité de Dieu, il évoquera la prophète Élie. Et donc, tout le monde aura la possibilité de reconnaître le Messie, la venue du Messie, comme Élie annonce le Messie. Mais en attendant, il laisse à Dieu le soin de choisir, et que pour pouvoir accomplir tout Israël sera sauvé, il convient non pas d'être prosélyte, mais il convient d'annoncer la vérité du christianisme aux Juifs. Il a écrit un sermon contre les Juifs qui est une apologie qui se termine par « N'hésitez pas à parler de la vérité, mais faites-le toujours dans la charité. » Donc il y aura toujours ce désir de pouvoir permettre aux Juifs de découvrir le Christ.
On a la chance d'avoir dans les sources manichéennes des références explicites aux quelques livres qui nous restent de Manie, dont on a seulement quelques traces. On n'a pas en fait de citation complète des livres écrits par Manie, mais dans les traces qui nous sont données de Manie, on nous dit il y a aussi le livre de l'image. Le livre d'image, c'est un livre d'image. C'est-à-dire, Manie a visiblement été peintre et a transmis sa doctrine par l'image. Et donc, quand on pense aux miniatures qu'on pourrait appeler persanes, parce que ça ressemble à ces manuscrits persans du 7e, 8e, 9e siècle, dans les textes manichéens, ce qu'on dit, en fait, de la façon dont les manichéens utilisent l'image, c'est des livres d'images qui servent à la pédagogie de la catéchèse. Et c'est très intéressant de voir comment, dans la représentation figurée des personnages d'une image, on a une façon de présenter un texte. Alors on lit le texte et on le commente, et il y a une image qui est en fait l'illustration du texte, mais la position des personnages dépend de la façon dont les lecteurs de l'image sont en face de celui qui explique l'image. C'est tout à fait intéressant de voir comment, dans ce qui nous reste de l'iconographie manichéenne, on voit de fait que les manichéens ont transmis leur doctrine aussi par des bandes dessinées. Et de ce fait, l'idée d'un manipeintre, ce n'est pas du tout de la mythologie, je pense, c'est une réalité historique qui perdure dans la façon dont les manichéens ont transmis leurs textes, y compris par l'image, bien 7, 8, 9 siècles après la naissance de Manie.
Est-ce qu'Augustin en parle ?
À mon avis, Augustin n'en parle jamais.
Oui. Pourquoi ?
Alors, je réponds très brièvement, oui, il y a des liens. Et en particulier, dans le livre 3, Augustin fait des confessions, Augustin fait allusion de façon très précise au péché, au crime des patriarches. Et déjà, on a déjà la même idée qu'il n'avait pas compris que, que le péché se définit par une perturbation de l'ordre, par un désordre en réalité, et non pas par... enfin, c'est pas la matière qui est mauvaise, mais il y a un désordre de la volonté. Donc, on a bien évidemment une conception du péché qui est développée. Mais c'est vrai que là... Comment dire là, alors, la présentation du livre 2 des Confessions, dans le vol des poires, pour le coup... C'est dans une perspective autre que celle qu'une perspective anti-manichéenne, enfin, à mon avis. C'est une sorte de réécriture de Genèse 3. C'est-à-dire que c'est une manière de montrer comment chaque homme est finalement pour lui-même Adam. C'est-à-dire comment on peut devenir, enfin, à la limite, on peut devenir capable d'un mal quasi gratuit simplement parce que on veut être à soi-même son propre maître. Vous voyez, et donc, et que finalement, tout péché ne s'explique pas simplement par la séduction d'un bien, mais là, ou du moins, si c'est la séduction d'un bien, c'est la séduction de soi-même, c'est-à-dire être à soi-même son propre maître. Voilà. Mais ça, cet aspect-là n'est pas développé du tout dans le Contre-Faust.
Merci pour cette question sur l'antijudaïsme de Chrysostome, que je connais beaucoup moins bien que celui d'Augustin. Les situations ne sont pas exactement les mêmes. Je pense que Chrysostome est en contact avec des Juifs au quotidien, beaucoup plus qu'Augustin. Et donc ça se traduit davantage par davantage de diatribes dans la littérature, dans ses interventions. Et pour ce qui est de, notamment, il suffit de comparer l'Adversus Judaeus d'Augustin à son traité, au traité de Chrysostome. C'est beaucoup plus virulent chez Chrysostome, alors que chez Augustin, c'est pas une vraie polémique, c'est une leçon d'éthique. On se retrouve un petit peu comme chez Justin, où c'est d'abord, on réfléchit sur la manière dont on comprend l'écriture. Voilà, il y a plusieurs colloques qui ont eu lieu sur, notamment Louvain-la-Neuve. À Louvain-la-Neuve, il y a 8 ans, je crois, et vous pouvez trouver dans les actes de colloques la position de Chrysostome contre les Juifs. Oui. Merci beaucoup.
Voilà, nous allons conclure cette soirée. Donc, il nous reste premièrement à vous inviter à acheter ces livres dans toutes vos librairies, notamment le volume 3 qui sort bientôt. Et il nous reste surtout à remercier nos orateurs, à la fois pour leurs propos et aussi pour leur contribution à cette édition, également les autres contributeurs, voilà, pour tout ce travail dont nous bénéficions.
Merci. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à Martine Dulay qui est en visio et qui a permis de faire cette synthèse et cette édition. Merci à toi, Martine.
Bonne soirée, bon retour.
Voilà.